16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission où l'on vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter, en compagnie d'un garçon qui, à un mot près, a cru se reconnaître dans notre thème du jour, moi, beau et méchant. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous, je ne vois pas à quoi vous faites référence, mais c'est là en effet un point commun de nos trois personnages du jour. Ils étaient beaux, ils sentaient bon le sable chaud, mais ils étaient...
carrément méchants, jamais contents.
Eh oui Mathieu, carrément méchant. Mais peut-être content malheureusement de ce qu'ils ont fait. On réunit trois criminels particulièrement bien faits de leur personne qui sont la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. À commencer par Pierre-François Lassner, un escroc, un brin poète et dandy du crime comme on l'a surnommé, qui n'a pas hésité à tuer de sang-froid pour se venger contre la société et a tout fait pour passer à la postérité, vous verrez. Puis... nous prendrons la direction des États-Unis à la rencontre de Ted Bundy, qui est incarné à l'écran par le musclé Zac Efron dans un biopic sur Netflix. À la fois beau gosse, beau parleur, il était surtout un terrible serial killer qui a violé et tué de nombreuses étudiantes.
Tout ça dit avec votre sourire, avec le sourire de Berne, ça fait vraiment bizarre.
Mais on m'a dit, fais de la radio, tu dois sourire à la radio.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce sinon, ça fait pas envie.
Mais oui, même quand on parle de serial killer, on va essayer de garder le sourire tout au long de cette émission.
Quant
à
vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait. Bon, à 99%. Vrai, d'un beau mannequin, mais un mannequin pas comme les autres.
Ah, c'est sûr que c'est une carrière de mannequin assez éloignée de celle d'un Baptiste Jabiconi. Mon personnage du jour s'appelle Jeremy Mix. Il s'est fait repérer non pas au détour d'une photo dans le GQ, mais d'un avis de recherche Wanted publié par la police américaine. Il était recherché, mais il était tellement sexy que sa photo a fait le tour du web et en sortant de tôle, eh ben il est devenu mannequin. Une reconversion à laquelle n'ont pas encore pensé à tort nos chroniqueurs, Stéphane. De sacrés beaux gosses et belles gosses aussi pourtant.
Oui, pourtant elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, je crains que pour moi ce ne soit un petit peu râpé la carrière de mannequin. Alors on va parler d'une autre jolie femme. Si je vous dis Amélie Ellie, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, Amélie Ellie. Elle était la femme d'un riche négociant.
Non, Amélie Ellie, c'est casque d'or, figurez-vous. Oh. Stéphane. Et alors,
vous
si
pensez,
je vous dis.
Il pensait à une autre amie.
Ah,
qui
oui.
Bah
oui, elle a peut-être un homonyme, hein, c'est tout à fait possible, c'est pas un nom très original. Donc, quand on vous dit casque d'or, évidemment, on pense à Simone Signoret. Mais alors, la question, est-ce que la célèbre casque d'or était belle et méchante ou moche et gentille? Alors, pour le savoir, je me suis abreuvée à la source de la presse de l'époque grâce à un nouveau magazine qui s'appelle Retro News et qui est réalisé à partir d'archives de presse de l'époque. Et donc, je suis allée chercher la vérité sur casque d'or.
Avec nous, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention. Bah, en ce moment, il a l'esprit très joueur.
Ah oui. Oui, c'est le badminton aujourd'hui, ce sport qui est un petit peu un cousin du tennis, un petit
It's
peu moins
English.
Célèbre. It's English, of course, it's English.
Et surtout, c'est un vrai sport qui nécessite une grande endurance. Apparemment, vous allez nous le raconter, mais à Londres, on ne plaisante pas avec le badminton, c'est très exigeant. Lui aussi, il est très exigeant d'un point de vue physique et sportif. C'est Olivier Pouls.
Il est rouge comme une écrevisse.
Ouais, ben, je vais vous raconter l'histoire passionnante de l'écrevisse en France, qui a connu des rebondissements absolument dingues. C'est un plat qui a un tout petit peu disparu. On en mange beaucoup moins des écrevisses et pourtant, on en pêche encore beaucoup. Et je vous donnerai évidemment une recette.
Enfin, en parallèle de moi, beau et méchant, nous développerons aux alentours de 5h-10 notre deuxième thème récurrent, celui-là, moi beau mais nul.
Alors,
nous jouerons à Berne to be alive,
ça
peut pas être vu que vous gagnez pas mal ces dernières chances. Mais tout de suite, découvrons l'histoire de notre premier personnage beau et méchant. Comme disait Michel Fugain,
qui c'est qui est très gentil,
très gentil.
Qui c'est qui est très méchant,
très méchant.
Notre personnage fait partie de la deuxième catégorie. Un escroc qui a tué de sang-froid, dont l'histoire a retenu le nom, la verve et le physique avantageux aussi, faisant de lui un parfait héros de cinéma. Stéphane Bern nous raconte un dandy du crime, le beau et méchant Pierre-François Lassenaire.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le 12 novembre 1835, un homme entre dans le prétoire du palais de justice de Paris. Un article de presse note que ses traits sont beaux et réguliers. Un autre compte-rendu le décrit jeune, frais, élégant, d'une figure riante, agréable et relevée par la petite moustache à la mode. Mais qui est donc ce bel homme qui plaît tant aux journalistes? Un jeune avocat? Ou peut-être l'une des parties civiles dont le statut de victime attirerait la sympathie des chroniqueurs? Non, ce bel âtre, c'est l'accusé. Pierre-François Lassener. À seulement 32 ans, la gravité de ses crimes aurait pu faire de lui l'incarnation même du mal. Mais il semble que ce soit ses jolis traits qui aient d'abord retenu l'attention du public. Pourtant, Pierre-François Lassener ne se retrouve pas devant les juges pour des broutilles. Parmi la trentaine de chefs d'accusation qui pèsent sur lui entre vol et faux en écriture, certains sont des meurtres particulièrement abjects et sanglants. Il ne prend pas la peine de se draper dans la présomption d'innocence, puisque dès l'ouverture de l'audience, il reconnaît les faits. Mieux encore, il les revendique. Les faits les voici. Pierre-François Lassener vit depuis quelques années déjà de petites rapines et escroqueries lorsqu'en décembre 1834, il retrouve dans les bas-fonds de Paris un certain Victor Avril, ancien camarade de prison. Les deux sont des antithèses. Lassener est grand, beau et attirant quand son comparse est trapu, brusque et peu séduisant. Surtout si Victor correspond tout à fait à la figure du gredin, violent et mal éduqué, Pierre-François, lui, a tous les attraits du jeune dandy romantique. Fin lettré, il a reçu une parfaite éducation digne de son milieu aisé dans sa ville de Lyon où il est né en 1803, avant de bifurquer vers les chemins du crime. Ce binôme étonnant, l'un vêtu comme un ouvrier, l'autre comme un bourgeois, s'est recroisé dans les tripots du quartier du Temple où Lassener vient dépenser les deniers qu'il vole aux autres. Aux tables de jeu, ils évoquent leur ancien acolyte de la prison centrale de Poissy, récemment revenu à la liberté, Jean-François Chardon, avec qui Lassener s'était brouillé en détention. Ils savent que l'homme vit désormais non loin du quartier et se plaît à voler l'obole des fidèles déguisés en curé. Sans foi ni loi, ce Chardon. C'est décidé. Ils iront détrousser le détrousseur et ils iront même plus loin. Ils vont le tuer. Pierre-François glisse de plus en plus vers la violence. Il est fini le temps où la rue suffisait à voler et à s'enrichir. Une imperméabilité à la souffrance physique des autres monte en lui. Voler l'argent de Chardon, faire couler son sang, après tout, peu de différence. Victor Avril, lui, hésite. Mais il n'ose plus reculer, certainement animé par le verbe haut et le charme de son complice. Le 14 décembre 1834, Lassener et Avril arrivent passage du Cheval Rouge et croisent Chardon dans la cour de son logis. Ensemble, feignant la joie des retrouvailles, ils montent le sombre escalier jusqu'aux deux pièces miteux où patiente le magot pour les uns, la mort pour l'autre. Chardon n'a pas remarqué la lame effilée que Lassener dissimule sous sa veste, encore moins la hache qu'Avril cache dans la sienne. A-t-il seulement vu venir sa fin ? A-t-il eu le temps de s'en figurer la violence ? Les deux malfrats ne prennent même pas la peine de menacer leur ancien ami. Lassener lui enfonce la lame dans le ventre. Chardon s'écroule, saigne et suffoque. Dans le vacarme de cette funeste étreinte, un bruit se fait entendre. Il vient de l'autre pièce. La mère de Chardon, chétive sexagénaire, se réveille. Lassener se précipite sur elle, l'étouffe et la poignarde, pendant que son complice achève le fils à coups de hache. Un bain de sang pour, au final, un maigre butin. Mais plus que l'argent, c'est le délice du meurtre qui semble combler Lassener. « Ce fut un beau jour pour moi que celui-là », écrira-t-il. 15 jours après, Lassener tente avec un autre complice de voler et de tuer un jeune employé de banque. Face à l'échec, il s'éloigne de Paris, puis sera finalement arrêté quelques mois plus tard pour escroquerie, avant d'être confondu pour le double meurtre dénoncé par son complice. Voici donc le criminel qui se présente à la cour d'assises en novembre 1835. Décontenancé par son allure, son style apprêté, son charme indéniable, le public va se passionner pour ce procès qui devient un véritable spectacle. Lassener parle bien mieux. Il pérore, disserte, harangue la foule et le tribunal. Il fait les questions et les réponses quand il n'affiche pas son mépris pour l'institution en pouffant de rire, en lisant le journal ou en dormant à l'audience. Ce n'est plus son procès, mais son moment de gloire qu'il transforme en procès de la société. Car c'est elle qui l'a rendu ainsi. Cette nouvelle monarchie de juillet, soi-disant libérale et progressiste, pourtant pétrie d'injustice et d'inégalité. Ce monde où la violence sociale lui paraît bien plus brutale que celle des assassinats. Ce monde où l'on relègue les récalcitrants dans des prisons infâmes qui sont autant d'écoles du crime. Ce monde qui, en ruinant sa famille, l'a rejeté, lui qui était pourtant bien né. Au procès, Lassener en rajoute « Je tue un homme comme je bois un verre de vin », assure-t-il. Il ne veut pas se défendre, au contraire, il réclame la sentence, la mort. La sienne, en plus de celle de ses veules complices qu'il s'échine à charger. Il obtiendra, bien sûr, mais avant cela, il travaille et crée sa légende. 3 jours de procès lui offrent la célébrité. Cela ne suffit pas. Lassner veut la postérité. Le procès de Pierre-François Lassner attire les foules. Les journaux de tous bords s'en font l'écho, y trouvant chacun leur intérêt. La presse gouvernementale se plaît à occuper l'opinion avec son monstre plutôt qu'à parler des républicains révoltés. Les journaux républicains, eux, y voient une preuve de l'échec du régime injuste de la monarchie de Juillet, alors que les plus traditionnalistes se servent de Lassner pour illustrer la perte de repères de cette société bourgeoise et individualiste qui a effacé les figures transcendantes du souverain et de la noblesse. Lassner est devenu un objet dont on se sert pour justifier ou contester. C'est justement pour cela qu'il décide, une fois condamné à mort, de reprendre en main le discours sur sa propre personne. Attendant son exécution au fond de la prison de la Conciergerie, il écrit ses mémoires pour raconter sa vérité. Sa geôle devient le nouveau salon à la mode, homme de lettres, femme du monde. On se presse pour jouir de sa compagnie raffinée. Lassner correspond avec les curieux et versifie sur sa condition. Jugez-en plutôt. Salut à toi, ma belle fiancée, qui dans tes bras va m'enlacer bientôt. À toi, ma dernière pensée, je fus à toi de le berceau. Salut, ô guillotine, expiation sublime, dernier article de la loi qui soustrait l'homme à l'homme et le rend pur du crime, dans le sein du néant, mon espoir et ma foi. Que voulez-vous de moi? Vous parlez d'échafaud. Me voici, j'ai vécu, j'attendais le bourreau. Dans ses mémoires, Lassner raconte sa vie et expose ce qu'il appelle son système, celui du crime plutôt que celui de l'ordre social qui ne lui inspire que mépris, de la haine même, profonde et rongeuse, dans laquelle il finit par envelopper tout le genre humain. Il clame que c'est dans ses fondements, c'est-à-dire dans sa morale, qu'il faut frapper l'édifice social. Quoi de plus amoral que le meurtre ? Par ses actes destructeurs, Lassner ne veut pas anéantir qu'un simple individu. C'est dans le sang de la société qu'il veut se baigner, quitte à y mêler le sien. Et son sang finira bien par couler lorsque le matin du 9 janvier 1836, sa fiancée, la guillotine, lui offrant son ultime étreinte. À la fin de son autobiographie, Lassner écrivait « Et vous qui lirez ses mémoires, où le sang suinte à chaque page, oh gardez-moi quelque place dans votre souvenir ». Puisque l'on parle encore de lui, il semble bien que ce soit réussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer de parler de Pierre-François Lassner, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Anne-Emmanuelle de Martigny. Bonjour Anne-Emmanuelle.
Bonjour.
Bonjour Anne-Emmanuelle de Martigny, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire du crime. Vous avez beaucoup travaillé sur l'affaire Lassner, c'est d'ailleurs le titre du livre que vous avez publié aux éditions Aubier. Le caractère exceptionnel de cette affaire ne tient pas tant à la nature du crime que dans la personnalité de Pierre-François Lassner. C'est son attitude finalement qu'il fait entrer dans l'histoire. Mais comment a-t-il réussi à faire de son procès une pièce de théâtre à sa gloire?
Oui, vous avez raison, parce que ce qui est intéressant dans son histoire, c'est pas ses crimes. C'est d'abord sa personnalité, parce que il n'a rien à voir avec le gibier de cour d'assises. Il est bourgeois, il est distingué, il est intelligent, il a fait des études, surtout il est instruit. Donc il a des talents. L'éloquence, l'intelligence, il parle latin, il est poète. Et qu'est-ce qu'il va faire de ses talents? Il va les retourner contre la société, et là, justement, contre la justice. Qu'est-ce qu'il fait à son procès? Eh ben, il lit le journal, il rigole, il parle d'égal à égal avec le président, il parle comme un avocat, finalement. À la fin, il fait un magnifique discours, vous l'avez dit. Et en fait, il va détourner la scène du jugement, et il en fait, je dirais, un piédestal. C'est l'image du héros de la cour d'assises.
Comment on peut expliquer quand même une telle romantisation autour du personnage de Lassner? Dandy, jeune, frais, élégant, figure riante, c'est ce qui s'écrit de lui à l'époque. Comment vous expliquez qu'on ait joué le jeu de cette romantisation que lui voulait peut-être?
On est en pleine époque romantique, hein, c'est les années 1830, et le romantisme a vraiment célébré la figure du poète. Alors là, on avait un assassin
poète.
Qui était poète. Et puis, ce public qui a reçu Lassner comme un héros, qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête des modèles littéraires. Ils ont reconnu en lui des modèles littéraires et en particulier le modèle du héros satanique. C'est ça Lassner, c'est pour ça qu'il a fasciné et qu'il a fait peur en même temps.
D'ailleurs, il a d'abord tenté d'emporter les jurés. Bon, ça a moins bien marché puisqu'ils ont quand même voté la mort. Mais les commentateurs de l'époque, et là, il a réussi. C'est-à-dire qu'il avait dans la poche toute la presse qui suivait le procès.
c'est intéressant, ses relations avec la presse, parce que il a séduit les journalistes, encore une fois, pourquoi? Parce que il était d'origine bourgeoise, il était comme eux, en fait. Donc ils se sont identifiés. C'est pour ça qu'ils l'ont reconnu comme un des leurs, finalement. Et puis, il savait parler. Et c'était un homme de discours, il avait été formé comme les journalistes en face de lui, il avait suivi des études secondaires presque complètes. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a voulu construire son personnage. Comment il l'a fait? Il l'a fait avec le discours, il l'a fait avec l'écriture, et il l'a fait en utilisant la presse, parce qu'il écrivait aux journaux, par exemple, pour corriger son image qui circulait. Quand on avait dit quelque chose qui ne lui convenait pas, eh bien, il voulait rectifier.
Il rectifiait. Mais sa beauté a joué un rôle aussi.
Il était distingué. Il est arrivé dans la cour d'assises avec une redingote bleue en col de velours. Bon, ben, ça changeait hein, par rapport...
au menu fretin.
Voilà, qui avait des origines sociales très modestes, des ouvriers. On imagine aussi le criminel avec une mine patibulaire.
Oui, voilà.
Alors là, il va complètement à l'encontre des représentations attendues du criminel.
Alors, Lassner, on l'a dit, était d'une grande beauté, et c'était aussi un très bon orateur. Il était issu d'un milieu bourgeois, c'est pour ça que la société parisienne s'est prise de passion pour son procès. Une question qui se pose, est-ce que son discours est cohérent? Ou est-ce qu'on se rend compte qu'il essaye de noyer le poisson et de travailler à sa propre légende? Ou est-ce qu'à un moment, ça se tient, ses explications?
Ça se tient dans le sens que ce qu'il développe, c'est l'idée d'un système, c'est-à-dire le crime pas seulement commis, c'est-à-dire la pratique, mais le crime théorisé. En fait, ce système, on n'est pas sûr qu'il préexiste à ces crimes. C'est parce qu'il a tué qu'il a trouvé une justification.
Voilà, il trouve une justification.
Hein, voilà. Oui. En gros, lui qui avait des talents, qui était bien né, il n'a pas pu trouver une place. Et donc, il a présenté ses crimes comme un acte de vengeance contre une société qu'il avait exclue. Donc, il est parti de son cas individuel, mais je dirais, il est monté en généralité pour dénoncer une société de l'injustice, une société de la division sociale. Bon, il avait lu Rousseau, hein.
Il avait lu... Il n'a pas cherché sa place non plus. Oui. Enfin, pardon, mais c'est facile après d'accuser la société, mais c'est pas que la société n'a pas voulu de lui, c'est lui qui ne voulait pas jouer le jeu de cette société et qui voulait pas travailler. Il voulait jouer, il voulait profiter et jouir des plaisirs de la vie.
Bon, mais Stéphane Bern vous parlait exactement comme les contemporains de Lassner.
Mais oui.
Alors, attention quand même à la légende noire, hein. Lassner, et si on suit son discours, c'est « j'ai commis le mal par amour du bien ».
Et lui, il n'a jamais de remords. On dirait qu'il n'a pas peur de la mort. Est-ce qu'il n'a pas peur ou est-ce qu'il feint de ne pas avoir peur de la mort?
Il a construit son personnage sur sa mort. Hein? Pourquoi finalement il lisait le journal pendant son procès? C'était pour montrer que la condamnation à mort, il l'attendait et il la désirait. Et vous avez lu tout à l'heure cette poésie qui est assez belle, hein, le dernier chant, où finalement la guillotine, c'est sa maîtresse et sa muse aussi. Donc, il a présenté sa mort, au fond, comme un suicide qui allait éclabousser la société de son temps. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque il a été exécuté, la presse a publié un compte-rendu mensonger de sa mort, pour faire croire qu'il était mort en lâche, tremblant sur les marches de l'échafaud.
Et c'est pas le cas.
Et oui, c'était pour montrer que le discours de Lassner tenait pas.
Mais comment on en est arrivé là dans sa vie? Parce que, je l'ai dit, sa famille était ruinée, ils avaient tout perdu, c'est un jeune homme de bonne famille, lettré. Comment il a pu être amené à commettre, avant qu'il théorise ses crimes, hein, comment il en est venu à commettre de tels forfaits et surtout... ce sang versé qui est de façon dramatique, hein, en égorgeant, en poignardant.
Je pense que dans la vie de Lassner, ce qui est quand même important, c'est la faillite de son père, qui était négociant à Lyon et qui a fait faillite en 1929. Et là, c'est quand même une rupture. À partir de ce moment-là, il va y avoir des années où Lassner va perdre pied. Alors, il avait déjà fait des bêtises. Et au fond, c'est pas un bourgeois. C'est un bourgeois déclassé. Et ça, c'est important, la psychologie du déclassé. Parce que le déclassé, il aurait pu réussir dans la société.
Il a encore plus de regrets.
Et donc, il est frustré. Ben voilà, à défaut de pouvoir devenir écrivain, parce que c'est ça, hein,
et
son
pourquoi
ambition,
il n'est pas devenu écrivain?
Parce que c'est difficile de devenir écrivain. Aujourd'hui, c'est difficile, et ça l'était en 1835.
On en a connu d'autres en 1835.
Vous pensez qu'il aurait pu devenir écrivain s'il s'était vraiment attelé, ou il manquait peut-être un peu de talent quand même pour...
C'est poésies sont pas mal. Hein.
Ah, on sent que vous êtes quand même un petit peu. Il y a
vous,
du syndrome
vous êtes tombé.
De Stockholm,
mais
il y a
hein.
de tout. Il y a
vous
non,
êtes tombé
non,
sous
non.
le charme de Lassner.
Un peu. Il y a des poésies romantiques, il y a des poésies argotiques. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Hein. C'est le début de l'argot en littérature.
Ah oui, donc il est assez pionnier aussi.
Ah ben, d'une certaine manière, oui. Et puis surtout, il y a le texte des mémoires. Écrire son autobiographie en prison, en attendant que le coup près de la guillotine tombe, c'est pas mal quand même comme posture.
Et il a trouvé un éditeur.
Eh ben oui, il a trouvé un éditeur. Alors c'était scandaleux, hein, oui. l'idée de qu'il allait survivre. Donc, texte scandaleux et censuré.
Autre point intéressant, lorsqu'il était en prison, Lassner recevait un peu le tout Paris, paraît-il, des hommes de lettres, de riches dames. Comment c'était possible? Pourquoi il n'a pas eu le même traitement que les autres prisonniers?
Le chef de la sûreté avait de l'estime pour lui. Et donc, a facilité ces 2 mois qu'il a passés en prison avant son exécution, en permettant qu'il ait des visites, en permettant qu'il écrive, qu'il reçoive du courrier. Alors, il a eu beaucoup de visites. Il a reçu des dames du monde, il a reçu des médecins, il a reçu quand même voilà Jacques Arago. Mais attention, la prison, en 1835, c'était pas aussi fermé qu'aujourd'hui. Ah oui, pas pour longtemps, ça s'est fermé d'ailleurs.
On pouvait
le scandale de la détention de Lassner a joué aussi pour fermer la prison.
On peut dire un mot quand même de cette monarchie de Juillet qui était particulièrement un régime bourgeois, évidemment. Et c'est un régime qui est tombé sur uniquement des affaires criminelles.
C'est ça qui a fait la densité de cette affaire à l'époque. C'est que, au fond, Lassner tendait un miroir à cette société. C'était un pur produit de la société bourgeoise. Et donc, du coup, ces crimes amenaient ses contemporains à réfléchir sur les valeurs de leur société.
Et puis, cette affaire a été adaptée au cinéma dans le film Lassner de Francis Giraud, sorti en 1990 avec Daniel Auteuil pour l'incarner. Finalement, Pierre-François Lassner a tout du héros de cinéma, enfin, ou du anti-héros de cinéma.
Ce qui compte, c'est que Lassner a été un acteur. Parce qu'il a joué son personnage, il a construit un rôle, sa plus belle réussite, c'est ce personnage, et c'est ce personnage qui est passé à la postérité. C'est pas étonnant que le cinéma s'en soit saisi. Avant quand même le film de Giraud, il y a le film de Marcel Carnet, Les Enfants du Paradis, en 1945. Je pense que ça, Les Enfants du Paradis, ça a été essentiel dans la construction du mythe hein, de Lassner, qui marie l'écriture et le crime au pied de la guillotine.
Merci beaucoup Anne-Emmanuelle de Martini. Je rappelle que vous avez écrit le livre L'affaire Lassner, paru aux éditions Aubier.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont toute la presse de l'époque a parlé. C'est Clémentine Portier Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, la presse a beaucoup fantasmé sur le casque d'or. Casque d'or, cette légendaire fille de joie des Apaches de Paris dont vous nous parlez aujourd'hui grâce à la nouvelle revue Retro News qui nous replonge dans les archives de presse.
Ah oui, c'est vraiment une excellente idée, cette revue papier. Elle permet de naviguer à travers 3 siècles d'archives, hein, 1631-1950. Ça en fait du papier. Hein. On revient sur les grandes unes, les gros titres, mais aussi des petites annonces, des faits divers. Il y a une part de fiction, des cartes blanches données à des auteurs. Et puis, chaque numéro étudiera un aspect en particulier. Là, il y a tout un truc sur les débuts de l'homosexualité dans la presse. Et là, donc, justement, il y a un article de Michel Pedignelli qui porte sur la fameuse affaire de Casque d'or, parce que c'est un procès qui passionna l'opinion. En fait, ce sont 2 souteneurs du quartier de Belleville et Popincourt, Manda et Leca, qui sont accusés d'avoir déclenché une guerre pour la possession de casques d'or. Et casque d'or, nous dit la presse, est la prostituée la plus célèbre du Paris des Apaches. C'est un procès qui se déroule en mai 1902. Et celle que tout le monde attend, évidemment, c'est Amélie Élie, casque d'or, fleur de bitume, orpheline à 14 ans, qui a commencé à se prostituer dans le 11e arrondissement, à peu près à cet âge. Et à 19 ans, elle rencontre Joseph Plaigneur, dit Manda, chef de la bande des Orteaux. Alors, dans les colonnes de l'Indépendant, Rémois, on peut lire qu'elle est très amoureuse de lui, qu'on les croise dans les guinguettes, les restaurants du Faubourg du Temple, les théâtres des grands boulevards, 14 mois de lune de miel. Quand il n'est pas en train de relever les compteurs de casque d'or, qui se prostitue pour lui, mandat, cambriole des maisons bourgeoises. Du coup, casque d'or, elle s'ennuie un peu, elle trouve le temps long. En 1901, elle rencontre François Léca, caïd de Popincourt, et du coup, elle quitte mandat. Alors, lui ne supporte pas de perdre casque d'or. On ne sait pas s'il ne supporte pas de la perdre elle ou il ne supporte pas de perdre les revenus qui vont avec elle. C'est plus sûrement ce genre de choses. Alors, ce qui est amusant, c'est de lire la presse de l'époque qui fait de casque d'or une nouvelle Hélène qui a déclenché là, une guerre de Troie dans le milieu des Apaches. Bon, la presse aime toujours bien romancer les événements. En fait, à trois reprises, Mandat va essayer d'assassiner Léca. Alors, première attaque au couteau, tout ça est très romanesque parce que Casque d'Or s'interpose entre les deux hommes et donc le coup de couteau est dévié, il ne fait qu'effleurer Léca au sommet du crâne. Mandat réitère quelques temps plus tard, là il arrive avec un revolver, il touche Léca par deux fois, mais il ne peut pas l'achever parce qu'il y a un copain de Léca qui intervient. Léca est hospitalisé, mais c'est le code d'honneur des voyous de l'époque, il ne va pas dénoncer son agresseur au policier qui l'interroge. Bon, lui n'est pas dégoûté de tenter de l'assassiner, puisque dès que Léca sort de l'hôpital, Mandat monte sur le marchepied de la voiture qui le transporte et le poignarde en plein poumon. Il voulait vraiment, vraiment sa peau, c'est peu de le dire. Eh ben non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, toujours en vie. Alors, cette histoire fascine absolument l'opinion. Quand on interroge Casque d'Or, elle dit « La bande des Apaches, ça n'a jamais existé. Moi, je ne me suis jamais appelé Casque d'Or. C'est les journalistes qui ont inventé tout ça. » Elle va quand même profiter de cet emballement médiatique parce qu'il y a des peintres, notamment, qui lui demandent de poser pour eux. Il existe une toile d'Albert Depré. On voit une belle fille en cheveux, la cigarette au bec, la poitrine sanglée dans un caraco rouge et à la main dans la poche du tablier à carreaux. Elle va être aussi engagée au théâtre. Elle est engagée au Bouffe du Nord pour jouer dans une pièce de théâtre qui retrace sa vie. On édite des cartes postales, Casque d'Or, la célèbre gigolette. Elle devient vraiment une créature à la mode. Alors évidemment, pour le procès, on attend qu'elle, là aussi, la presse dit que va-t-elle faire, que va-t-elle dire cette femme fatale, cette reine de Saba sanguinaire rendant les hommes fous d'amour, fauve, avide d'émotions violentes qui exigeait que son amant verse son sang pour la posséder. Non mais bon, voilà, là c'est quand même légèrement exagéré. C'est elle qui aurait déclaré qu'elle a appartiendrait au vainqueur. En fait, c'est une espèce de d'Ève tentatrice qui a semé la zizanie entre ces deux messieurs. Bon, avec des titres pareils, vous imaginez, tout le monde l'attend dans le prétoire. Chacun retient son souffle quand elle est annoncée à la barre des témoins. On va voir arriver une créature incroyable. Mais quand elle se présente, les journalistes sont très déçus. La fille Élie, dite Casque d'Or, justifie mal son surnom. C'est une petite blonde de 22 ans, aux cheveux assez abondants, tassés sur le front, d'une nuance très légèrement cuivrée, au teint mat et fatiguée, aux yeux noirs peints, plutôt jolie que laide, ayant les allures d'une figurante de cassé-concert. Pire, selon l'Écho de Paris, elle manque de relief. Un visage ordinaire, enveloppé dans un long fourreau de drap couleur caca de poule. Elle paraît cylindrique. Ben mon vieux, disons là,
elle est ravie pour l'hiver.
En effet. Alors la pauvre, elle est émue, elle est intimidée, sa voix s'étrangle, elle n'arrive pas à parler. Et puis les deux accusés, elle les a aimés tous les deux. Et puis non seulement ça, mais il faut qu'elle fasse attention parce qu'ils ont encore des copains en circulation en ville. Oui. Et donc, si elle, selon ce qu'elle va dire au procès, bien sûr, le procès dure une semaine. Les deux hommes sont condamnés aux travaux forcés et au bagne en Guyane. D'ailleurs, moi, je trouve ça assez injuste parce qu'il y en a un qui a tenté d'assassiner l'autre par trois fois, mais l'autre, il n'a pas fait grand-chose.
Ils seront ensemble en Guyane.
Ni l'un ni l'autre n'en reviendront vivants. Ah. Et avant de partir pour le bagne, François Léca épouse une autre femme. C'est dire le cas qu'il faisait d'Amélie. La grande histoire d'amour avec la reine de Saba, tu repasseras. Alors, Amélie, alias Casque d'Or, va continuer de se prostituer. Elle deviendra bonne tière et elle épousera un cordonnier en 1917. Elle meurt en 33 à l'âge de 55 ans et 20 ans plus tard, le film de Jacques Becker la rend immortelle. Mmh. Mais là, on est avec Simone Signoret.
Elle n'a pas eu d'enfant.
Je ne sache pas. En tout cas, la presse ne s'intéresse pas à ça. Vous voyez, dans la revue de presse, la presse s'en fout.
Qu'elle
devienne bonne tière et qu'elle soit heureuse et eu beaucoup d'enfants.
Merci Clémentine pour cette belle histoire.
Dans sa robe caca de poule.
Merci Clémentine, effectivement. Et on vous conseille, chers auditeurs, de lire Retro News, la revue qui vous invite à découvrir l'histoire par la presse et ses archives, coéditées par le site de presse de la BNF et les éditions Lattès.
En partenariat avec Europe 1.
Pas du tout en partenariat avec Europe 1.
Non, mais maintenant, on nous a dit de dire toutes les phrases en partenariat avec Europe 1.
Je vous invite à dîner en partenariat avec Europe 1.
Pour rester avec nous, Clémentine, le quiz arrive.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'intérêt qu'il manifeste pour ses chroniques est en réalité inversement proportionnel au respect qu'il lui voue.
Le seul tort de Monsieur de Montespan avait été pour son tourment d'avoir vécu toute sa vie et de mourir amoureux de sa femme.
Comme quoi.
Enfin, j'espère, parce que sinon c'est inquiétant. Sinon, Clémentine, vous avez l'opportunité de vous venger. Voici le quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane Bern.
Oui.
Dieu ne nous remplit qu'autant que nous sommes vides. Henri de Monterland. Élu à l'Académie française en 1960. Vous avez compris qu'on partait sur une question très littéraire,
très littéraire.
Littérature, histoire. Henri de Monterland a-t-il vécu suffisamment longtemps pour manger des tic-tac? À la tête de Stéphane. Cette émission, il faut vraiment la déguster en vidéo.
Écoutez, les tic-tac, oui, c'est très ancien. Parce que moi, j'ai...
Vous avez consommé des tic-tac assez jeunes.
J'ai vu des tic-tac sur les... Il y avait même des distributeurs à tic-tac et des boîtes de tic-tac sur
oui,
dans les
supermarchés. Oui, mais attendez, en quelle année meurt Monterland?
Monterland est mort dans les années...
C'est suicidé.
Oui.
Quand, dans les années 50?
Je crois, oui. Je crois.
50
ou à la
60.
Fin de la guerre, non? Après la guerre.
Bah, début des années 50, 50 il serait oui. suicidé. Oui. Entre 50 et 60. Est-ce qu'il y a déjà des cachous à l'époque?
Oui, oui.
Mais est-ce que les tic-tac existent déjà? Moi, je dirais non.
Vous diriez, Stéphane, que diriez-vous, puisque la question vous est adressée?
Moi, je dirais oui.
Henri de Monterland.
Oui, il adorait les tic-tac. Pu, oui.
Il adorait les tic-tac. Comment vous faites Henri de Monterland? Faites bien. Découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné,
bravo,
Stéphane, de manière complètement inattendue,
bravo.
Puisqu'il n'est pas mort du tout, ni juste avant la guerre, ni juste après. Il est mort en 1972, Henri de Monterland.
Ah,
bon. Et les tic-tac sont nés, eux, en 1969, commercialisés en France, en 1971. Alors, dans vos souvenirs, Stéphane, vous étiez enfant.
Oui, mais je voyais les distributeurs de tic-tac.
Mais en 70, je veux bien voir des tic-tac.
Ouais,
mais c'est vrai que
dans les
m'étant
70,
trompé sur l'année de la mort de Monterland complètement.
Mais en fait, je voyais la mort de Monterland plus
c'était
récente.
C'était un vieux monsieur. Ouais. Ah bah oui. Bon, écoutez, c'est moi qui vous ai induit en erreur, mais vous
mais
avez
gagné.
Vous
j'ai
avez
gagné.
Vous avez
gagné.
Et point. C'est ça qui compte. Petite info en plus, sachez que dans les tic-tac citron vert, il y a des insectes écrasés pour faire le colorant alimentaire. Je ne le savais pas.
Ah,
et je ferai attention la prochaine fois en achetant des tic-tac. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La musique, c'est du bruit qui pense. Comment donner tort à Victor Hugo? Mais est-ce que Victor Hugo conserverait cette opinion si je lui disais que la mélodie d'un des plus grands tubes de Céline Dion vient d'Igor Stravinsky? Est-ce que c'est vrai? Céline a-t-elle pompé Stravinsky?
Écoutez, c'est fort possible. Parce,
oui, parce que regardez, toutes les chansons de Gainsbourg...
Bien sûr, c'est beaucoup de Chopin, c'est du Brahms, c'est les grands standards de la musique classique ont nourri la créativité des artistes contemporains. Donc Céline Dion, et puis d'ailleurs, je ne sache pas qu'elle écrive elle-même ses musiques, ce qui veut dire que c'est l'un de ses compositeurs attitrés qui est allé chourer du Stravinsky. Je réponds oui, c'est bien possible.
Vous avez... perdu.
C'est ça va faux. Pas être Stravinsky,
c'est
ça va
faux.
Être Tchaïkovski, ça va être...
Mais non. Pas du tout, mais pas du tout, c'est Sergueï Rachmaninov. Écoutons...
Ah oui, bien sûr.
Écoutons le deuxième mouvement du concerto pour piano de Rachmaninov qui s'enchaînera tout naturellement avec
All by Myself
de
bien
Céline.
Sûr.
Ah c'est fou. Ah oui, c'est dingue, j'avais jamais entendu.
Mais non, non, mais là vous plaisantez parce
mais
que
regardez.
Ça... Non. Ça, c'est le concerto de Rachmaninov pour piano, c'est All by Myself, et c'est pas du tout chanté par Céline Dion.
C'est un tube de Céline
Dion. Elle n'est pas du tout la première à l'avoir chanté. Pas du tout. Alors là, qu'est-ce qu'on parie quoi? Une bonne
mais
bouteille?
Si, elle l'a chanté.
Elle l'a chanté, mais elle n'est pas la première.
On n'a pas dit que c'était la première.
Oui, mais si vous m'aviez dit. Non, mais attendez.
Et elle n'a pas dit que c'était la première.
On l'a pas dit.
Est-ce que la chanson de Céline Dion.
C'est fascinant parce que c'est pas une citation.
Mais là, elle reprend la chanson d'un autre. C'est pas un de ses tubes à elle, si vous voulez. Est-ce que Céline Dion a repris? Est-ce que Céline Dion a repris un concerto connu? Je vous aurais répondu Rachmaninov, bien sûr. Elle est là à brailler au By Myself, ça nous débouche les oreilles.
Prenez un tic-tac et calmez-vous. Question numéro 3 pour vous, Stéphane.
C'est dégueulasse. Quelle mauvaise foi, cette fille.
En 1854, Verlaine a 10 ans. Sa famille déménage à Paris et son père passe une petite annonce à cette occasion pour vendre différents objets. Dans un journal, il est écrit qu'il se dessaisit d'une table à jouer en merisier et de 750 grammes de dawamesque et d'une sorte de confiture verdâtre faite à partir de résine de cannabis. Vrai ou faux ?
Écoutez, franchement, si cette question n'aurait pas de sens si ça avait été faux.
Hein ? Je me permets de reformuler la question, puisque
son père,
le nom de Verlaine est là, mais
c'est son père.
Ah, c'est son père. Le père de Verlaine. Ou alors il l'aurait vendu sans savoir ce que c'était.
Oui, peut-être. Il va avec des pots de confiture. Moi, je viens vendre des confitures aussi.
La confiture que vous m'avez offerte de Tiron Gardé n'est pas verte, elle est délicieuse.
Elle est délicieuse. Oui. Il n'y a pas d'hachiche dedans.
Pas d'hachiche.
Non.
Vous avez perdu.
C'était là une mauvaise réponse, Stéphane. Oui, non, mais... il n'a pas vendu de confiture au cannabis, le père
pas
de Verlaine.
Le père de Verlaine, c'était un bourgeois, tout à fait.
Il explique que le père veut vendre une table à jouer en merisier, un buffet de salon et 450 bouteilles de vin. Pourquoi se séparer de bouteilles de vin ? C'est étrange, mais c'est ainsi. Question numéro 4, Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est au XVIe siècle qu'un jeu est au top de la branchitude. C'est le jeu de Colin Maillard. Mm. Ça vient de Jean Colin. Vrai ou faux ?
Oui, ça me dit quelque chose, cette histoire, il me semble.
Mais ça vous dit quoi ?
Il y a une histoire autour de ça que j'ai lue et oubliée. Je pense que oui.
Vous avez gagné !
C'est une bonne réponse, même si vous ne connaissiez pas vraiment l'histoire derrière ce jeu.
Dites-moi le début, je vais trouver la suite.
Au Xe siècle, Jean Colin, maçon, vit dans la région liégeoise.
Non.
Ça, c'est le début de l'anecdote.
Oui, oui.
Le comte Lambert Ier de Louvrain tente d'envahir la région. Jean Colin rejoint les Hutois pour le combattre, mais comme il est maçon... Il est armé seulement d'un marteau, d'un maillet. Il reçoit une flèche dans chaque œil, mais poursuit le combat à l'aveugle. Il va mourir de ses blessures, mais petite consolation, le jeu Colin Maillard était né.
J'avais lu ça, mais j'avais plus assez d'espace.
Égalité. Nous sommes à égalité sans même avoir triché. C'est ça qui est étonnant. Il me semblait que...
Vous vous étonnez vous-même.
J'ai tellement l'habitude de tricher à ce stade du jeu et de pouvoir corriger les comptes que là, je suis tout étonné.
Enfin, moi, je voudrais quand même une petite contestation sur votre histoire de
célébrité. Ne contestez pas, nous sommes à égalité. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Le quiz historiquement vôtre, c'est en pourparlers, devrait devenir, selon toute vraisemblance, une discipline olympique pour les JO de Paris de 2024. Mais au fait, mes amis, qui a eu l'idée de faire courir les athlètes avec la flamme olympique sous forme de relais ? Trois propositions. Les Grecs, les Anglais ou les nazis ?
Les Anglais.
Vous avez dit deux en même temps, quasiment au même moment. Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. C'est une victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Les nazis, Stéphane, les nazis.
Incroyable.
Ils fourmillaient comme ça d'idées. Celui qui a eu l'idée,
vous excitez comme c'est ça, 15e. En disant les nazis. Espérons
qu'ils
reviennent
pas. On dirait De Gaulle
pas.
Sur l'Europe, là. Les nazis.
Et j'essaie de mettre du dynamisme dans ce quiz. Ça sent que vous mâchouillez un tic-tac, un tic-tac citron. C'est dégoûtant.
Plein d'insectes.
Les nazis. Celui qui a eu l'idée, c'est Karl Diem. Il était secrétaire général du comité d'organisation des Jeux de Berlin. Goebbels et Hitler, devant sa proposition, ont adoré l'idée. On adore, ils ont dit. Mais réhabilitons un peu ce Karl Diem. Il a fait pression pour que les Juifs allemands participent librement aux JO. Sans succès, malheureusement.
Ah, voilà, ça c'est une question intéressante.
Voilà, on est passé des tic-tac aux nazis. C'est ça, historiquement vôtre. Merci, Clémentine. Belle victoire.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, une émission d'histoire rieuse présentée par deux animateurs plus gentils que beaux, enfin surtout un.
Ne soyez pas si dur avec vous-même, Mathieu. Plus gentil que beau, c'est tout l'inverse de nos trois personnages du jour, Mathieu, qui eux sont beaux et méchants. Après Pierre-François Lassner, direction les États-Unis, où nous attend un garçon bien sous tout rapport, extrêmement charmant, redoutablement intelligent. Bon, son seul défaut, c'est un serial killer. Je vous présente Ted Bundy. Quant à vous, Mathieu, vous nous prouverez qu'en prison, le travail de réinsertion peut s'avérer payant.
Oui, à condition d'être beau comme un dieu grec, vous pourrez effectivement quitter la profession instable de gangster et trafiquant pour devenir mannequin slip Armani. C'est ce qu'a fait Jeremy Mix. Il était trafiquant de drogue, la police avait placardé des photos de lui pour qu'on le chope. L'effet fut l'inverse, on a eu envie de le choper, mais pour de bon. Quand vous verrez sa photo, vous comprendrez pourquoi. Ça m'a fait la même chose le jour où j'ai découvert David Castello-Lopez sur TikTok.
Justement, Mathieu, il est là, notre beau gosse du Douro.
Ça faisait longtemps.
Moi, j'avais manqué
cette petite chanson. David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'un jeu, le badminton.
Tout à fait. Quelque chose de plus classique aujourd'hui, mais je vous raconterai. Il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le badminton.
C'est très très vieux, le badminton, sans dévoiler. Ouais. Ça remonte à loin. Lui aussi... Ah non, ça va pas comme transition. Non, non, lui est très très jeune. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, est là avec nous, Stéphane.
Moi aussi, j'ai des choses passionnantes à raconter sur l'histoire de l'écrevisse.
Je ne sais pas s'ils sont beaux, mais en tout cas, ils sont méchants. Ils le prouvent chaque jour en fin d'émission dans la lutte finale. Un affrontement sans pitié pour déterminer qui de Pouls, Castello et moi est le moins nul en histoire. La réponse tombera aux alentours de 6h-10. Mais tout de suite, Stéphane Bern nous entraîne à la rencontre de notre deuxième personnage du jour. Un tueur en série qui a sévi dans les années 70, un physique avantageux et des proies toujours identiques, de jeunes étudiantes pas beaucoup plus âgées que lui. Stéphane Bern nous raconte le beau et méchant Ted Bundy.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1974, il fait beau ce dimanche 14 juillet sur les bords du lac Sammamish dans les environs de Seattle au nord-ouest des États-Unis. Une foule nombreuse profite du grand air. Non loin du rivage, Janice Graham, 22 ans, traîne aux abords d'un kiosque à musique quand soudain, un jeune homme l'aborde. Vêtu de blanc, il affiche un sourire séduisant. Il se prénomme Ted et a besoin d'aide, comme le suppose son bras en écharpe, pour, dit-il, hisser son bateau sur le toit de sa voiture, garé un peu plus loin. La jeune fille accepte et l'accompagne jusqu'à sa Volkswagen. Mais point de bateau. Janice est surprise. Ted précise que l'embarcation est rangée dans la maison de ses amis, juste là, à quelques minutes au pied de la colline. Mais Janice, déjà en retard pour rejoindre ses parents, n'a absolument pas le temps. Chacun repart alors de son côté et la jeune fille ne réalisera que bien plus tard qu'elle vient d'échapper à un triste sort, la mort. Car ce charmant jeune homme s'appelle Ted Bundy. Il est l'un des plus fameux et sinistres tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Et ce jour-là, ce sont au moins 6 ou 7 jeunes femmes à qui Ted a demandé de l'aide. 2 d'entre elles l'ont suivi dans sa voiture. Personne ne les a revues. Leurs corps seront retrouvés 2 mois plus tard au bord d'une route à 3 kilomètres de là. Voilà des mois que Ted Bundy a parfaitement rodé son mode opératoire. Depuis le début de l'année 74, des jeunes femmes disparaissent mystérieusement dans les nuits de Seattle, souvent près du campus universitaire. Plusieurs fois, des témoins ont aperçu un jeune homme, le bras en écharpe ou parfois avec des béquilles, ou encore la jambe dans le plâtre, demandant de l'aide pour charger des livres ou des cartons dans sa voiture, une coccinelle beige. Il semble qu'à chaque fois, les victimes montent d'elles-mêmes dans le véhicule, probablement rassuré par un garçon charmant et courtois. C'est le masque dont s'affuble Ted Bundy pour ne pas laisser paraître la noirceur de son dessein. Et c'est d'ailleurs ce masque qui va le sauver, pour un temps. Après les disparitions du lac Sammamish, des témoins se manifestent. Ils ont vu l'homme au bras en écharpe parler aux jeunes filles. Certains ont même entendu des bouts de conversation. Les signalements se multiplient, un portrait robot est rapidement diffusé. Le tueur a un visage, un nom Ted, et une voiture, une coccinelle de couleur beige donc. Les autorités savent déjà qu'elles ont affaire à un maniaque. Toutes les victimes ont le même profil, jeunes, souvent étudiantes, brunes aux cheveux longs. La police reçoit de nombreux appels. Celui de Meg Anders par exemple, la petite amie de Ted Bundy, qui se prend à avoir des doutes. Celui d'Elisabeth Klopfer, sa première copine. Ou de Anne Rule, une ancienne collègue. Mais le profil ne correspond pas. Ted Bundy est un sympathique étudiant en droit, bien sous tout rapport, engagé en politique au niveau local et sans passé criminel. Les enquêteurs préfèrent se concentrer sur d'autres suspects. Avant de devenir ce simulacre de gendre idéal, Ted Bundy, né en 1943, a vécu une enfance bien terne, enchaînant les déménagements dans un contexte familial quelque peu compliqué. Il découvre probablement à l'adolescence que sa grande sœur est en réalité sa mère et qu'il est en fait élevé par ses grands-parents qui ont voulu cacher la honte d'un enfant né de père inconnu. De quoi créer quelques névroses, on en conviendra. Dans sa jeunesse, Ted est introverti, ne s'adapte jamais vraiment à son environnement, au lycée ou ailleurs. Une sorte de jalousie monte en lui, il voudrait être comme ces gens populaires à l'école, il voudrait pouvoir s'offrir la vie des classes aisées qui se refusent à lui. Alors il vole pour sustenter ses besoins matériels, une habitude qui vire à la kleptomanie. On ne sait pas vraiment quand Ted Bundy a commencé à tuer, mais certains spécialistes notent un point de bascule à 22 ans, lorsque son premier amour, Elisabeth Klopfer, le quitte en 1968, lui reprochant son immaturité et son manque d'ambition. Cette rupture l'anéantit complètement. Il ne suit plus les cours à l'université, change de discipline et va d'échec en échec. Il charrie sa médiocrité dans les nuits de Seattle et en profite pour espionner des jeunes femmes à la faveur d'un rideau mal fermé. Progressivement, au gré de petits boulots, de voyages, de relations douteuses ou de rencontres dans le monde politique qui l'attire, il se crée une nouvelle personnalité. Il se replonge dans les études qu'il réussit, trouve du travail et prend de l'assurance. Il est désormais sociable, aimable, soigne son apparence, sait écouter et parler. Il est devenu séducteur et séduisant autant que menteur et manipulateur. Ted Bundy dissimule parfaitement derrière une belle apparence son ténébreux désir de mort et ses terribles pulsions de violence. À travers l'Ouest américain, il enlève, viole et massacre des dizaines de jeunes femmes. Il dépose les corps dans la nature pour revenir les voir ou les violer encore quand l'envie lui prend et emporte parfois des têtes coupées dans son appartement.
Ok.
Arrêté un peu par hasard en août 1975, Bundy est suspecté mais relâché, puis surveillé. Arrêté à nouveau, il va faire face au juge en février 1976, mais seulement pour une tentative d'enlèvement. Condamné à 15 ans, il sera extradé vers le Colorado pour y être jugé pour meurtre. Il parvient à s'évader et à rattraper à nouveau, s'évade encore et fuit vers la Floride, où il va commettre début 1978 un véritable carnage dans un foyer d'étudiantes avant d'être enfin arrêté et finalement jugé en juillet 1979. Loin de tout de suite faire tomber le masque, son procès, le premier filmé dans l'histoire des États-Unis, sera l'occasion pour Ted Bundy de tenter de séduire les médias et l'opinion. Il badine avec les journalistes, joue de son charme pour faire douter de sa culpabilité. Il assure lui-même sa défense et parade à l'audience avec nœuds papillons et costumes soignés, lançant à l'occasion quelques regards concupiscents à de patibulaires groupies qui se pâment d'avoir pu attirer son attention. Il profite même de l'occasion pour demander sa petite amie en mariage, ce qu'elle accepte. Il clame son innocence, blâme la société, mais sera finalement condamné à la peine capitale. Et ce n'est que dans le couloir de la mort que Ted Bundy reconnaîtra enfin ses crimes. Une trentaine de victimes, il ne sait plus vraiment. Officiellement, elles sont au nombre de 36. Étrangement, même après son exécution en 1989, son image parvient encore à susciter le désir chez certaines personnes envoûtées par le charme macabre de ce meurtrier devenu objet de la pop culture, oubliant, comme disait le poète, que cette beauté sombre comme le fer est de celle que forge et polit l'enfer.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Ted Bundy, nous sommes avec le scénariste de bande dessinée Jean-David Morvan. Bonjour Jean-David.
Bonjour.
Bonjour Jean-David Morvan. Vous avez lancé une collection de BD biographiques consacrée aux tueurs en série aux éditions Glénat, dans laquelle on retrouve justement Ted Bundy. Qu'est-ce que Ted Bundy a de différent des serial killers en tout genre que vous avez étudiés? On peut dire que son physique est assez éloigné de celui de Monsieur Fourniret.
Oui, oui, ça je pense que... Et de Monsieur Holm aussi.
Oui, on est assez loin, oui, effectivement. Ça a joué.
Non, bah Bundy, c'est la beauté du diable, mais ce qui est intéressant, je pense que chez lui, c'est que c'est une espèce d'enveloppe vide, Ted Bundy. C'est quelqu'un sur lequel on peut fixer, et sans doute les femmes, parce que moi ça m'est pas arrivé, mais fixer certains désirs, certaines envies, parce que c'est quelqu'un qui est tellement vide à l'intérieur que je pense qu'il renvoie l'image qu'on a envie, qu'il renvoie, et je pense que c'est pour ça qu'il est si attirant au-delà du regard et de l'espèce d'angoisse qu'on peut avoir en le regardant. Mais je pense que le fait de savoir aussi qu'il était un serial killer attire d'autant plus certaines personnes.
Alors, c'est vrai qu'il a, généré une vraie fascination, une passion même pour certaines jeunes filles. Certaines venaient assister à son procès. Encore aujourd'hui, Netflix a dû mettre en garde son audience devant le documentaire dédié à Ted Bundy, rappelant qu'il existe des milliers d'hommes sexy qui ne sont pas des tueurs en série.
Heureusement, heureusement.
C'est quand même incroyable, ce phénomène.
Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un personnage très, très étrange, à la fois qui donnait une image très, très rassurante et très sûre de lui. Et comme je disais tout à l'heure, à mon avis, qui était une coquille vide. Je pense que c'est quelqu'un qui était en choc post-traumatique permanent depuis qu'il est gamin, qui s'est toujours regardé vivre et qu'en fait son seul truc c'était de copier, on va dire, le comportement humain et donc de s'adapter aux gens qu'il avait en face.
Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que il a joué de son image, il sait de sa beauté, de sa séduction.
Il aurait pu être acteur en fait.
Oui, en fait, oui.
Ouais, mais je crois qu'il avait pas le talent.
Ah, il était le talent, mais comme vous dites qu'il était vide, il paraît que certains acteurs doivent faire le vide pour justement pouvoir.
Ouais, ça c'est possible.
Ça
fait penser à ça.
Ça fait passer mieux la lumière, paraît-il.
Mais il y a un truc intéressant, c'est que quand il a été accusé à Salt Lake City pour avoir tué des filles et que ça y est, il a été repéré. En fait, il y a plein de gens, on va dire honnêtes entre guillemets, qui ont fait des pétitions en disant ça peut pas être Ted Bundy, c'est un garçon gentil, lui, libérez-le, etc. Donc il avait plein de gens de son côté jusqu'à ce qu'on prouve que c'était lui.
On a dit il avait du succès avec les filles, il a même eu plusieurs petites amies. Comment il est décrit justement par les femmes qui l'ont connu?
C'est complexe parce que je crois que sa copine avec laquelle il est resté le plus longtemps, elle avait des doutes par moment sur sur ce qu'il pouvait faire, mais elle a jamais vraiment osé le dénoncer. De temps en temps, elle en a parlé et finalement, à un moment, c'était devenu too much, donc elle l'a fait. Mais je pense qu'il était différent avec chaque personne, parce que comme je disais tout à l'heure, il renvoyait ce qu'on avait envie de voir de lui, quoi. Mmh. Et c'est
comme ça que ça a brouillé les pistes d'ailleurs. Quand elles ont commencé à dire, on a un doute, ça peut être lui. Non, le caractère ne correspondait pas.
Exact.
Mais justement, dans votre BD, on apprend qu'il a travaillé dans un centre de soutien téléphonique d'une nuit. Ce travail l'aurait beaucoup aidé pour la suite de ses actions, notamment à contrôler sa voix en toute situation. C'est lui-même qui l'a avoué, ça?
Oui, c'est Anne Roule aussi qui a fait un livre sur lui, mais c'est vrai que parce qu'elle a travaillé avec lui dans cet endroit-là. Et c'est vrai qu'il a appris à poser. En fait, le problème des serial killers, qui n'ont pas vraiment de contrôle sur eux-mêmes. Mmh. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est avoir le contrôle sur les gens. Et c'est vrai que dans un centre où il y a des filles qui appellent, qui sont désespérées, qui veulent se suicider, il disait, moi, en un mot ou en deux mots, je pouvais soit la sauver, soit la faire se suicider. Et j'avais un poste fabuleux. C'était vraiment, mais ce qui lui manquait, c'est qu'il voyait pas. C'était au téléphone. Donc, il avait le pouvoir, mais ça allait pas jusqu'au bout.
Mais c'est peut-être ça qui lui a donné le goût.
Oui, c'est fort possible. Mais les serial killers, ils s'intéressent toujours aux autres serial killer, parce qu'ils essayent de comprendre pourquoi ils sont comme ça.
Est-ce qu'on connaît le nombre exact de ces victimes et est-ce qu'elles ont toutes été retrouvées?
Lui, il a dit dans ses dernières interviews que ça se compterait avec 2-0, donc il pense qu'il en a tué plus de 100, mais oui, c'est ça, il y en a un peu plus d'une trentaine qui ont été dénombrés.
Il ne tenait pas les comptes?
Peut-être, mais comme il mentait tout le temps, c'est super difficile à savoir.
Lorsqu'il s'attaque à ce foyer de jeunes filles, j'en parlais en 1978, il vient de s'évader de prison et il fait un véritable carnage, qui est loin de son procédé habituel. Ça va d'ailleurs mener à sa véritable condamnation. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Pourquoi il a changé d'angle de tir, si je puis dire?
Je pense qu'avant, il était dans le confort, c'est-à-dire qu'il avait tout prévu. Sa voiture, c'était son arme, il pouvait faire rentrer les filles dans sa voiture, il savait exactement comment se comporter à tel moment, donc il avait révisé finalement son process, et après s'être échappé, il était dans la clandestinité. Donc je pense que tout ce process-là avait explosé, et donc il était obligé de faire autrement, il pouvait plus suivre, on va dire, son chemin préféré pour tuer les filles, et donc à un moment, il a craqué. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu qu'il tue qu'il s'attaque à toutes ses filles. Il avait une victime désignée, elle n'allait pas rentrer chez elle à l'heure et il n'en pouvait plus. Il avait ses pulsions qui étaient tellement fortes qu'il est allé avec son bout de bois là, taper sur les filles, vraiment faire un massacre. Heureusement, elles sont pas toutes mortes, mais quand même. Et puis après, il a couru chez l'autre fille et il l'a tuée. Donc, je pense qu'il fixait vraiment son attention sur un objet de désir fantasmatique et qu'une fois que c'était fixé, ça montait. Et il était obligé d'avoir un passage à l'acte. Et bon, c'est un peu compliqué comme processus, parce que nous, dans nos petites têtes, on a quand même du mal à comprendre comment ça fonctionne.
Dans la toute dernière interview qu'il a donnée, quelques heures avant sa peine de mort, et qui rythme d'ailleurs votre BD, Bundy dit avoir eu une enfance heureuse. Finalement, il ne sait pas lui-même pourquoi il a tourné comme ça. Est-ce que on a une explication au final?
Non, mais c'est ça qui m'intéressait justement dans cette collection sur les serial killers, c'était d'essayer de voir la différence entre tous et les points communs entre tous, quoi.
Et alors, c'est quoi le point commun de tous les serial killers?
Le seul vrai point commun qu'on peut voir dans leurs crimes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin de contrôle. Et souvent, ils se sentent dieux en fait en donnant la vie, en laissant la vie ou en donnant la mort, ils sont presque dieux, et ils ont tous ça à un moment ou un autre. Donc je pense que c'est des gens qui sont tous, on va dire, insécures, qui est un drôle de mot, mais avec eux-mêmes en fait.
Et à aucun moment Ted Bundy a exprimé le moindre remords?
Non, parce que je pense que pour Bundy, comme pour plein d'autres, l'être humain en face n'existe pas vraiment. Donc en fait, ils peuvent pas avoir d'empathie à partir du moment où les gens en face n'existent pas vraiment pour eux.
Merci beaucoup, Jean-David Morvan.
Merci.
Votre bande dessinée biographique Ted Bundy est parue aux éditions Glénat. J'en profite également pour annoncer votre toute dernière BD, Madeleine Résistante, La Rose des Goupillés, parue en août aux éditions Dupuis.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on réunit le casting d'un nouveau film intitulé « Moi, beau et méchant ». Après Pierre-François Lassner et Ted Bundy, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un bad boy contemporain très très beau et très très bad.
Allez les gars, on se dit tout. Qui a déjà eu envie de coucher avec Émile Louis ou Francis Holm? On lève la main? Personne. Comme quoi, ça fonctionne pas à tous les coups, cette légende urbaine selon laquelle, ouais, les filles, en fait, elles préfèrent les mecs méchants, les bad boys. Cliché tenace, pourtant, qu'on retrouve dans de nombreux téléfilms érotiques bas de gamme où revient toujours sous une forme ou une autre ce dialogue « J'ai été très vilain, ça t'excite hein ?» Et la femme, généralement blonde, répond généralement « Oui », sans autre explication. Eh bien, avec Jeremy Mix, tolard à la plastique spectaculaire, ça fonctionne dans la vraie vie. Il a été vilain, et tout le monde a été fort émoustillé. Je vous ai évidemment apporté une photo. Alors, soyons honnêtes, quelle que soit l'orientation sexuelle qui était la nôtre en entrant dans ce studio tout à l'heure, là, quand même, les cartes sont rebattues. Le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est...
Ah, le bâtard.
Oui, on comprend assez vite l'emballement médiatique autour de ce détenu à la plastique spectaculaire. On sait finalement, je préfère vous le dire d'emblée, assez peu de choses sur ce Jeremy Mix, mais très vite, on en vient à s'en foutre, parce qu'on n'a pas envie de le connaître, Jeremy Mix. Le regarder nous suffit. On se dit que si la nature est capable de produire ça... c'est qu'elle est foncièrement bonne. Franchement, on pourrait passer des heures à regarder des photos de Jérémy sur Google Images. Parmi le peu de choses qu'on sait de lui, la plus évidente est que Jérémy aime modérément porter des t-shirts. Certainement une allergie au coton. La deuxième est que vous avez plus de chances de le voir à la télé dans une pub Armani que dans la grande librairie. 112, c'est son tour de taille, mais c'est aussi visiblement le nombre de mots qui composent son vocabulaire, à en croire les légendes accompagnant ses posts Instagram, on va y venir, à côté desquelles les citations de Paulo Coelho font figure de trésors philosophiques. Avec Jeremy, mieux vaut rester dans le factuel. 1m83, 78 kg, les yeux d'un bleu lagon polynésien, hobby, muscu, coucher de soleil et hold-up. Il naît le 7 février 84 à Tacoma, en Floride, avec un patrimoine génétique que nous qualifierons d'extrêmement favorable. Sur la célèbre échelle de Castello...
Moi, niveau beauté, je me mets 13 sur 20.
Eh bien, Jeremy devrait pouvoir accrocher le 18, voire le 19. Oui, hein. Oui. Bref, il fait pas du tout partie de ces gens qui ne doivent pas tout miser sur leur physique, oublier qu'ils n'ont aucune chance et foncer. Il fait partie de ces gens beaucoup plus rares qui doivent absolument tout miser sur leur physique, oublier qu'ils ont 10 chances sur 10 et trier parmi toutes les demandes. Stéphane, bon, vous l'avez bien maté, maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre la photo, s'il vous plaît.
L'écart entre ces deux mamelons est égal à celui qui sépare les mamelons du nombril et le nombril de l'entrejambe.
Oui, il est beau, on a compris, mais Stéphane, si vous saviez sa vie, il pleure comme il rit, mais il pleure plus qu'il ne rit. Son père est accusé, je cite, de meurtre, de viol, d'actes haineux. Sa mère, son frère, sa sœur, tous sont condamnés pour divers crimes tout aussi haineux. Bref, David, Jérémy, quoique étant de la même génération que nous, ne goûtera pas aux joies des mercredis Nesquik Nintendo Minicum. Il connaît pas ça. Très jeune, il sombre dans la criminalité en intégrant des gangs. Et même le plus violent d'entre eux, les Crips. Comme ça, ça sonne comme un gâteau apéro au paprika, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir. En 2002, il a 18 ans, il est condamné pour vol et violence sur mineur après avoir attaqué un ado de 16 ans.
La vie de ma mère, on n'a rien fait.
Déclarera-t-il au juge qu'il ne le croira pas et le condamnera à 2 ans de prison ferme. Balzac disait, c'est surtout en prison qu'on croit à ce qu'on espère. Jeremy est comme Pulse, Balzac ça le dépasse un peu. Lui, ce qu'il voudrait, c'est pouvoir sortir de tôle pour aller se faire un T-bone steak chez Wendy's. En 2014, bis repetita, lui et trois de ses amis sont arrêtés pour vol à main armée, encore une fois. C'est alors que la police lance une opération anti-gang nommée Opération Cessez-le-feu dans le quartier de Stockton. Et ils postent des photos signalétiques sur Facebook, des portraits des membres du gang, dans le but de le démanteler. Généralement habitués à lire des commentaires plutôt négatifs sur leurs publications, la marée chaussée est extrêmement surprise devant les réactions suscitées par la photo de Mix. En effet, au lieu de donner envie aux gens de filer des infos pour aider à pécho les complices de Jeremy, sa photo donne simplement envie aux gens de le pécho lui. Jeremy fait le buzz sous le hashtag Felon Crush Friday, le coup de cœur criminel du vendredi, si on veut. Sa photo est likée plus de 100 000 fois, de nombreuses agences de mannequins le repèrent, les demandes en mariage affluent. Et Jérémy est toujours derrière les barreaux, qu'il pète déjà les plombs, formulant une requête au juge assez incongrue. Il souhaite ne plus être filmé ni pris en photo dans le tribunal avec son uniforme orange de détenu. Non, il demande à pouvoir se faire tailler un costume sur mesure. Étonnamment, la requête sera rejetée. Il est en outre condamné à nouveau pour possession d'armes et de vol aggravé. Il rempile pour 27 mois de prison, l'occasion de découvrir les subtilités du langage carcéral. Prendre une douche en prison quand on est si beau, ça peut jouer des tours.
Ça t'ennuie de te pencher de me ramasser ma savonnette.
Mais jetons un voile pudique sur ces tribulations pénitentiaires. Pour retenir l'essentiel, le positif, il signe à distance donc un contrat de 30 000 dollars avec l'agence de mannequins Blaze Models, puis décroche carrément un contrat avec une des plus grandes agences du pays, White Cross Management. En mars 2016, ça y est. Jérémy est libéré, délivré en sortant de prison, forcément. Qu'est-ce qui se dit, Stéphane ?
Place aux chattes.
Non, tout le monde n'est pas obnubilé par le sexe comme vous, Stéphane. Vous savez, parfois vous me choquez. Non, Jeremy se dit qu'il n'y a pas une minute à perdre. Il fonce à son premier shooting, photo, cette fois. Et le succès ne sera pas éphémère. Aujourd'hui encore, il est sous contrat avec de nombreuses marques. Son compte Instagram compte plus d'un million d'abonnés. Et plus personne ne semble se souvenir qu'il a fait partie un jour d'un gang. Sur sa page Insta, et il nous donne des nouvelles de sa nouvelle vie, si j'ose dire. Une vie passionnante. On peut le voir devant une villa à Hollywood avec cette légende d'une puissance métaphysique rare. Dieu est bon. Il y a aussi une photo de lui devant une voiture de luxe garée dans l'entrée d'une maison qui doit être la sienne, puisque le commentaire qui l'accompagne est un superbe condensé de la pensée de Søren Kierkegaard, je cite « C'est bon d'être chez soi ». Mais alors les filles, Mr Bad Guy s'est-il vraiment rangé des voitures? Est-il devenu aussi terne que votre fiancé qui travaille dans la com chez Tahiti Douche? Non. J'ai une bonne nouvelle pour vous les filles. Jeremiah ne pratique plus le vol à main armée, mais ça reste un connard comme vous les aimez. En juillet 2017, sa femme Mélissa demande le divorce après 9 ans de mariage et 3 gosses. La raison ? Oh ben Jérémy s'affiche un peu avec une certaine Chloé Green, héritière de l'empire Top Shop en Turquie sur un yacht à 130 000 la semaine. Mélissa Mix, publiquement cocufiée, s'estime humiliée. Oh ben non, après avoir attendu patiemment pendant toutes ces années de prison en préparant la popote à 3 gosses, humiliée ? Je vois vraiment pas pourquoi. Ensuite, Mr. Connard refait sa vie avec une mannequin, mais pas trop longtemps, 1 an. Le temps de lui faire un petit gosse et de se séparer. À Dubaï, bien sûr, il est Instagrammeur. Bref, vous l'aurez compris, Jérémy Mix, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu.
Y compris nu.
Oui. Surtout nu même, essentiellement, Stéphane, parce que les autres aspects de sa personnalité sont moins intéressants.
Merci Mathieu. C'est passionnant, mais je sais pas, avec tous les portraits, vous êtes fait de nouveaux amis. Vous...
Non, oh bah, à lui, mais non, mais maintenant il est repenti, il me ferait plus pas de mal à une mouche, je pense.
Oui,
hein.
Je pense.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces méchants beaux gosses. Mais on ne perd pas au change, Mathieu, puisqu'on retrouve des beaux gosses gentils.
Mais là, c'est vous qui êtes gentil, Stéphane. Mais si vous voulez aller, voici David Castello-Lopez et Olivier Pouls. Olivier Pouls, notre mannequin écrevisse aujourd'hui. Olivier, l'écrevisse...
Elle est en promotion, avec la sauce en tua. Superbe, mais tout de suite, évidemment, on retrouve David Castello-Lopez pour parler d'un jeu anglais.
Très british, le badminton.
Oui, badminton, c'est vraiment un sport dont je me disais, pendant longtemps, c'était un peu un truc de vieille dame, voyez, jusqu'au jour où j'ai essayé. Et non seulement je me suis fait rétamer la face, en l'occurrence par des filles, voilà, et en plus, j'ai même pas tenu le coup physiquement, ouais, tellement j'ai dû courir. Mais ça montre quand même l'originalité du badminton, qui est un mélange de violence et de délicatesse. Ah ouais. La violence, parce qu'il faut beaucoup courir et on doit taper très très fort. La délicatesse, parce que le volant, même s'il est frappé par un colosse de 100 kilos de toutes ses forces, il finira toujours sa course tout doucement quelques secondes plus tard. Comme souvent, le badminton, c'est l'adaptation d'un jeu ancestral qui est basé sur le volant, qui lui est très très ancien. Donc, l'une des versions les plus récentes de ce jeu, c'était un jeu pour enfants qui s'appelait Battledore and Shuttlecock. Battledore and Shuttlecock. Vous voyez, wow. Le Battledore,
Shuttlecock, ça me fait un peu peur, moi.
Oui, Shuttledore, c'était la raquette. Et le Shuttlecock, c'est le violon. C'est le volant, pardon. Et c'est toujours le nom du volant aujourd'hui au badminton. Alors, je convoque votre connaissance de l'anglais.
Shuttle,
pourquoi Shuttlecock?
La navette.
Shuttle navette, parce que
coq,
le volant, c'est la navette.
C'est un mot que je ne peux pas prononcer en français, mais à moins que ça soit autre chose, là, pour le
Mais
coup.
Non, parce que coq, ça veut dire coq, en fait, au départ, en anglais.
Ah, c'est des plumes.
Mais oui, et bien, parce que ça ressemble à des plumes de coq, et coq, ça veut dire. Et
ah oui, peacock.
Coq, avant de vouloir dire pénis, d'accord, ça veut juste dire coq, l'animal, même si le second sens a malheureusement contaminé le mot initial,
oui,
et qu'on ne peut plus parler de l'animal sans penser à la chose, un petit peu comme chatte en français,
ah
si
voilà,
vous voulez.
Ah voilà, voilà, c'est l'équivalent.
Alors, j'ai vu des tableaux du 18e siècle où on voit des enfants jouer à Battledore and Shuttlecock, et ça a l'air d'être une sorte de badminton, si vous voulez, mais version sans filet. Et petit à petit, ça a commencé à être joué par des adultes anglais, donc, qui ont ajouté un filet. Et c'était populaire en particulier chez les soldats stationnés en Inde, à Pune en particulier, et un des noms de ce du badminton avant le badminton, c'était le Pune. Et là est intervenu un duc anglais, le duc de Beaufort, duc anglais donc avec un nom de fromage savoyard, et le duc de Beaufort, il aimait beaucoup le Pune, et donc il a commencé à y jouer avec ses invités dans son château à la campagne, qui était dans un village du Worcestershire en Angleterre, village qui s'appelle badminton. Si
non.
Le sport badminton, oui, s'appelle badminton, le badminton, voilà. Si le sport badminton s'appelle le badminton, c'est donc à cause de la maison de campagne d'un duc anglais du 19e siècle. Alors, l'essor du badminton, ensuite, c'est pas très original. C'est l'histoire classique, c'est les clubs anglais chics, les règles qui sont codifiées, puis la démocratisation, etc. Alors, j'ai plus grand chose à dire donc sur l'histoire du badminton. Donc, je vous propose de vous détailler à la place 4 fun facts de très très bonne qualité sur le badminton. Fun fact numéro 1, le badminton, c'est le sport de balle, le balle en l'occurrence de volant, où le volant va le plus vite. Vous savez à quelle vitesse va un volant quand il quitte la raquette d'un champion?
Forcément plus de 200 km/h.
Je dirais 280.
Jusqu'à 430 km/h, deux fois plus vite que les services les plus rapides du tennis. Alors bien sûr, après ça ralentit un peu vite, c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte. Fun fact numéro 2. Le badminton, c'est le deuxième sport le plus populaire du monde en termes de nombre de gens qui y jouent, juste derrière le foot. Alors pourquoi on s'en rend pas compte? Parce que la plupart des gens qui suivent en badminton, ils sont en Asie, pas seulement en Inde, loin de chez nous. Et évidemment, ce sont aussi des Asiatiques qui dominent le sport. 70% des tournois de badminton sont gagnés soit par des Chinois, soit par des Indonésiens. Fun fact numéro 3. Le terrain de badminton est sensiblement plus petit qu'un court de tennis, mais on court beaucoup plus en moyenne dans un match de badminton que dans un match de tennis. En moyenne, pendant un match de tennis, les joueurs y courent 2,9 km. La moyenne pour le badminton, c'est 6. C'est le double. Voilà. Et fun fact numéro 4. Le volant du badminton, dont j'ai amené un exemplaire ici, il est fait avec des plumes d'oie ou de canard et c'est super dur à faire. Il y a 16 plumes par volant et elles doivent toutes venir de la même aile de l'oie.
Mais ça, c'est du badminton. Si tu vas chez Intersport ou Decathlon,
si, parce qu'en fait,
t'as pas en plumes d'oie.
Bien sûr, ils les font en plastoc, mais celles qui sont utilisées généralement, elles sont en plumes. Et ces plumes, en fait, elles ont un certain sens. Et si elles viennent, si on peut pas mélanger les plumes de deux ailes différentes sur un même volant. Et en plus, elles doivent faire exactement la même taille et exactement le même poids au gramme près. Donc, vous voyez, c'est quand même un savoir-faire très grand. Il y a des vidéos sur YouTube où on voit des gens en train de fabriquer des volants. Je vous les conseille. C'est peut-être une lubie personnelle. Je sais pas, mais en tout cas, avouez qu'en termes de fun fact, c'est pas si mal.
Oui. C'est excellent.
Excellent. Là, on était au top. Voilà. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire des recettes, l'histoire des bons produits de chez nous. Les écrevisses, Olivier Pouls.
Oui, qui n'a jamais dégusté un beau plat d'écrevisses et sa sauce Nantua, ou un délicieux gratin d'écrevisses est vraiment passé à côté de quelque chose dans sa vie.
Un gratin d'écrevisses?
Oui, moi j'ai un souvenir très ému d'avoir mangé cela il y a quelques années à l'auberge du Père Bise. C'était une institution culinaire et c'était vraiment un moment de gastronomie que j'ai cherché longtemps à retrouver et j'arrive plus aujourd'hui à trouver un gratin d'écrevisses digne de ce nom, donc je le fais moi-même et je vais donc dans un instant vous donner la recette. Mais tout d'abord, je vais vous parler de l'écrevisse. Vous savez, ce petit animal que vous confondez avec les langoustines.
Pas du tout.
Alors, c'est vrai que ça y ressemble un peu. La langoustine, elle vit dans la mer, alors que l'écrevisse, elle vit dans l'eau douce. C'est vrai qu'une petite similitude. L'écrevisse, physiquement, voyez-vous, elle a un corps un peu plus arrondi, elle a plus d'épaules et une queue un petit peu plus petite. Elle a des plus petites pinces aussi. Et durant des siècles, l'écrevisse, qu'on appelle l'écrevisse à pattes blanches, qui est la vraie écrevisse originale de nos régions, elle a fait le bonheur des populations, des campagnes, parce qu'on en trouvait dans de nombreux endroits, dans les rivières, dans les lacs. On les pêchait et puis on les savourait pour la finesse de leur chair. Et elles se plaisaient très bien dans l'écosystème où elles avaient trouvé un point d'équilibre qui marchait bien. Mais entre 1878 et 1881, s'est abattue en France la peste de l'écrevisse. Une terrible maladie qui a dévasté une grande partie de nos bonnes écrevisses à pattes blanches. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir du début du XXe siècle, on a vu apparaître un autre type d'écrevisse qu'on appelle l'écrevisse américaine, venue donc des États-Unis. On ne sait pas vraiment comment, il y a plusieurs théories qui circulent. Ça pourrait être des gens qui les avaient ramenés, puis qui se sont dit, tiens, on va en mettre dans nos rivières ou dans nos lacs, comme ça on aura de nouveau des écrevisses. Ça partait peut-être d'un bon sentiment. Ce pourrait être aussi une introduction qui se serait faite par accident, vous voyez, elles auraient voyagé dans d'autres cargaisons, elles se seraient retrouvées dans nos eaux. Bref, à partir du début du XXe siècle, on la voit débouler, et le problème, c'est que c'est un drame écologique absolu, parce que ces écrevisses se reproduisent à une vitesse phénoménale, et puis surtout, elles dérèglent complètement les écosystèmes, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent notamment de petits planctons, de petits éléments dont on a besoin pour maintenir des écosystèmes dans nos lacs notamment. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le lac Léman, que vous connaissez bien, on pêche chaque année des tonnes et des tonnes de ces écrevisses américaines, et quand on les pêche, on est obligé de les tuer et de les manger. Pas question de les remettre dans l'eau, parce qu'elles polluent aujourd'hui, vraiment, elles provoque un problème d'équilibre dans le lac.
Il n'y a plus de pâte blanche.
Alors, il en reste quelques petites pattes blanches qui ont réussi à se planquer et dans quelques petites rivières, on en trouve.
Sous les rochers.
Mais vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, vous allez me dire, en termes de goût, peut-être que finalement, ça se vaut.
L'américaine, elle est peut-être bonne.
Ben oui, mais elle est moins bonne. Elle est...
Ah bon?
Eh ben, c'est comme si vous compariez, vous savez, le bon homard bleu des côtes bretonnes avec le homard américain.
Non, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. C'est mangeable, hein, c'est pas mal, mais ça n'a pas la finesse, ça n'a pas l'élégance de la chair.
Et
des
donc, qu'est-ce
blanches.
Qu'on fait, là?
Eh ben, aujourd'hui, malheureusement, on est contraint de manger des crevisses américaines, qui n'est pas mauvaise, hein, il n'y a pas de problème.
Nulle part, je ne peux plus trouver de pâte blanche.
On peut encore en trouver un petit peu, mais je crois que la pêche est très réglementée, voire interdite dans certains coins.
Et pourquoi on les fait pas se reproduire?
Eh ben, parce qu'on n'y arrive pas. Parce que,
on n'arrive pas à les reproduire.
Parce que les autres dominent tellement l'écosystème.
Alors, elles valent rien, les écrevisses américaines?
Ah ben, ça vaut pas très très cher. C'est vrai qu'on... Alors, moi, je suis allé à la pêche aux écrevisses, par exemple, dans le sud-ouest. C'est très facile à faire, hein, pêcher les écrevisses. On pêche ça avec une espèce de panier dans lequel on accroche des bouts de viande, parce que l'écrevisse, elle mange de la viande, elle est carnivore. Et donc, elle s'accroche aux petits bouts de viande. Vous n'avez plus qu'à remonter le panier et vous avez plein d'écrevisses par-dessus. Alors, pour réaliser ce petit gratin d'écrevisses, vous allez vous procurer 2 kilos d'écrevisses américaines par la force des choses aujourd'hui. Un peu de beurre, une carotte, une échalote, quelques tomates, un bouquet garni, un peu de vin blanc, un petit trait de cognac, et vous allez faire ce qu'on appelle une bisque avec les écrevisses. Donc vous précuisez d'abord vos écrevisses entières avec tous ces légumes, vous décortiquez les queues, et avec les corps, on fait une bisque, on mouille avec le vin blanc, avec le cognac. On laisse bien réduire, on crème tout ça pour vraiment avoir du goût. Et puis on va rajouter les queues dans un plat à gratin. On recouvre de cette bisque bien corsée d'écrevisses et on gratine dans un four. C'est absolument délicieux. Alors ce qui est important, si on va soi-même ramasser les écrevisses, c'est qu'elles peuvent être un petit peu vaseuses. Donc il faut,
bien les nettoyer.
Et les faire dégorger dans des grandes quantités d'eau avant, pour ne pas avoir ce petit goût un peu terreux qu'on peut avoir. Voilà comment l'écrevisse américaine a aujourd'hui pris le pas sur notre bonne vieille écrevisse à pâte blanche.
Merci Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'heure de la lutte finale a sonné, Stéphane.
Oui, trois spécimens s'affrontent, des gabarits différents. Mais le vainqueur, c'est celui qui aura, un peu comme l'écrevisse, la plus grosse cervelle, et voilà, le reste...
Non. Vous n'osez pas.
Alors Olivier, on commence par vous. 1998, c'est l'année de la Coupe du Monde de foot. 1, 2, 3, 0.
Il y a des Coupes du Monde tous les 4 ans, c'est pas...
Mais c'est aussi la fin du télégramme en France. C'est en effet en avril 98 que le dernier télégramme a été envoyé en France. Vrai ou faux?
Télégramme, peut-être de manière presque anecdotique déjà, puisqu'il s'est pratiquement disparu. C'est possible que finalement c'était si tard que ça, comme le dernier Minitel, en fait, il s'est arrêté. On en a parlé il y a pas longtemps, mais il s'est arrêté assez tard. Allez, je vais dire oui.
C'est beaucoup plus tard, en
fait. Avril 2018.
Ouais.
On pouvait envoyer des télégrammes, bien sûr, jusqu'en avril 2018. David, dans l'affaire du collier de la reine en 1785, qui a éclaboussé la réputation de cette infortunée Marie-Antoinette, Jeanne de Valois a joué un rôle clé. Elle avait un nom qui pourrait vous faire pouffer. Elle était appelée Comtesse de la Chouille. Vrai ou faux?
Comtesse de la Chouille, alors...
C'était pas Comtesse de la Ch'touille?
Franchement, j'ai aucune idée, mais... Donc vraiment, I'm flipping a coin, je dirais oui.
Oh non. Comtesse de la Mouille.
Non, Comtesse de la Motte.
Ah, alors, elle n'était pas loin.
Elle était mariée à Nicolas de la Motte. Elle avait un amant, Louis Réteau de Villette, qui était gigolo. Voilà.
D'accord.
Mais elle n'était pas de la Comtesse de la Chouille.
Ils ont tous perdu, j'ai gagné. Ah non, il faut jouer pour juste, c'est vrai.
Comme vous aimez le foot, Mathieu,
oui.
Vous le savez, quand on parle du COP dans un stade, ça vient d'une bataille, vrai ou faux, KOP?
Oh mince, alors, en plus, je m'y connais bien en foot quand même. Là, c'est une question dont je ne connais pas la réponse. Le COP, ça vient d'une bataille. Je ne connais pas la réponse, mais je dirais non. D'accord, c'est une bataille.
Ça vient de la bataille de Spion Kop. En 1900, l'armée anglaise tente en vain de surprendre d'assaut une colline en Afrique du Sud appelée Spion Kop. En 2005, le club de Liverpool baptise une de leurs tribunes Spion Kop en hommage aux victimes. Le mot Kop est resté.
Vous venez de dire en 2005?
En 1905, le club de Liverpool baptise...
En 2005, c'est un peu tard pour inventer le COP. Mais oui, oui, d'accord. En 1905, ah oui, alors c'est ça.
Le mot COP est resté.
Et c'est né à Liverpool, à la ville du football.
Alors, vous êtes tous les trois nuls.
Et on, oui, est
mais
on
va
départager
la nullité.
Le moins nul.
Votre erreur nous a repêchés, c'est vrai.
Alors, restons en Angleterre. 1066, c'est la célèbre bataille de Stamford Bridge. Les Anglais sont opposés aux Vikings de Norvège pour le trône d'Angleterre. Les Vikings étaient arrivés grâce à 300 bateaux. Combien de bateaux vont repartir? Vous avez vu la série Viking quand même.
Non.
Mais on va appeler Clémentine. On a le droit d'appeler un ami, on a le droit d'appeler Clémentine.
Les Vikings sont arrivés, 300 bateaux. Combien repartent-ils vers les eaux profondes de la Norvège?
Ils ont pris une déculottée.
Ben ça, historiquement, oui.
Ils sont les rois normands qui ont pris le pouvoir. Olivier, combien?
15.
David?
7.
Et moi, 8.
Eh bien, c'est Olivier qui gagne.
Putain!
Non! C'était 24 bateaux.
Ne soyons pas vulgaires. En début de la défaite,
s'il vous plaît, soyez beaux joueurs, félicitez-moi.
J'ai pas entendu la réponse alors.
Là, c'est 24 bateaux
qui sont
repartis vers la Norvège. Cette bataille signe la fin de l'ère viking. Voilà.
C'est la fin pour les Vikings et c'est une victoire pour Olivier. Pour une de plus. Historiquement vôtre se termine. Beaucoup de beaux gosses aujourd'hui, en plus de nous. On était donc 6 au total. Lequel de nos 3 personnages beaux et méchants aimeriez-vous inviter à dîner, Stéphane?
Je préfère vous inviter, vous et Olivier, à dîner parce qu'au moins, au moins il se mettra au fourneau.
On n'a rien à faire quand on invite ça qui est pratique.
J'ai aucun risque de me faire trucider avant la fin du repas.
Non, normalement ça devrait bien se passer. Quant au programme de demain, vous êtes en mesure de faire une annonce ou pas?
Et ta sœur?
Elle bat le beurre?
Non, et ta sœur? Ah, ben c'est le thème de notre émission dans laquelle on réunit des sœurs au nom célèbre. Laure Moulin, figure discrète de la résistance, comme son frère, Catherine Dior, qui a résisté aussi.
Et moi, je ne résiste pas à vous raconter un autre membre d'une de mes familles préférées. Elle s'appelle Kim Yo-jong, et elle est la sœur cadette de Kim Jong-un. Et elle ne cesse de prendre du pouvoir. Je vous raconte tout ça demain.
Parfait, alors à demain, Mathieu. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.